meilleure à vous offrir. Achetez un sous-marin 14 pouces à prix régulier et pour 2,99 $ de plus, obtenez un sous-marin 7 pouces.
Vincent Sous-Marin, 644 boulevard Sainte-Foy à Longueuil. Et à Montréal, deux adresses, Saint-Hubert-Coin-Jean-Talon et Sainte-Catherine-Coin-Bourbonnière.
Vincent Sous-Marin, les meilleurs sous-marins au Québec.
La vie.
C'est la musique dans ma radio.
Aujourd'hui, en ce dimanche matin, j'ai le plaisir de recevoir un professeur titulaire et directeur du département des études littéraires de langue française à l'Université de Montréal. Il est chercheur, éditeur aussi pour les presses de l'Université de Montréal. Il a gagné de nombreux prix, auteur de nombreux livres aussi. Je reçois un intellectuel, Benoît Melançon, qui vient de faire paraître aux éditions Del Busso un livre qui s'appelle « Le niveau baisse ». Monsieur Melançon, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous pour nous parler de ce livre dont le titre dit beaucoup de choses. Le niveau baisse, évidemment, on parle de la langue française ici et de la langue parlée plus spécifiquement au Québec. Et quand on entend parler les gens autour de nous et spécialement dans les médias, on peut se poser la question, est-ce que le niveau baisse réellement?
Alors, le problème, c'est la généralité de cette phrase-là. Le niveau baisse, ça marche pas sur tous les plans. Je suis, comme tout le monde, agacé quand j'entends des choses, parfois dans les médias, parfois autour de moi.
Qu'est-ce qui vous agace dans les médias?
Alors, par exemple, la difficulté, souvent dans les médias, de bien maîtriser les niveaux de langue. On ne parle pas de la même façon à toutes les personnes selon toutes les circonstances. Alors, il y a des médias où on insiste beaucoup là-dessus. Radio-Canada, par exemple, il faut bien montrer qu'il y a une distance. Subitement, parfois, il y a des coupures dans les entrevues. On est parti au « vous », puis on tombe au « nous », au-dessus, pardon. On se demande, qu'est-ce qui s'est passé, là? Pourquoi est-ce qu'il y a ces ruptures-là? Donc, ça, c'est normal. Le sujet de la langue est le sujet sur lequel tout le monde a quelque chose à dire. Oui. Vous n'avez pas nécessairement une position ferme sur le volleyball de plage féminin aux Jeux olympiques. Sur la langue, tout le monde a une position.
Oui.
Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça qu'il faut aussi aller contre les idées reçues. Donc, c'est le sous-titre du livre. Le niveau baisse, c'est la plus grosse de toutes les idées reçues. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une collection de phrases de gens qui disent « le niveau baisse ». Alors, j'ai des phrases de cette année. J'ai des phrases de 1950, j'ai des phrases de 1850, puis j'ai une phrase de 1689, dans laquelle l'auteur dit, c'est effrayant, les jeunes d'aujourd'hui parlent mal.
Oui.
Ils parlent tellement mal que le français va disparaître.
Oui.
Et là, je me dis, il y a un problème. Là. Si je lis cette phrase-là de 1689 et je la comprends aujourd'hui, c'est donc qu'il n'y a pas eu une déchéance pareille de la langue.
Oui.
C'est un trait normal, ça, des êtres humains. Hein. C'était toujours mieux avant. La neige était plus blanche, l'herbe était plus verte, les enfants étaient plus polis. Je cite au début du livre une phrase de Socrate, 25 siècles avant nous,
tout à fait.
Qui dit « ça allait mieux avant ». Et donc ça, c'est normal. Hein. Et en matière de langue, je dirais que c'est encore un peu pire.
Oui, et j'apprenais ça il y a 30 ans, quand j'étais, même plus de 30 ans maintenant, quand j'étais en études françaises, que justement, on se plaignait du niveau de la langue à différentes époques dans l'histoire, de la littérature française. Il y avait toujours des auteurs qui se plaignaient comme ça. Alors, moi, je trouve ça intéressant de vous recevoir aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de gens autour de moi qui s'interrogent justement sur le niveau de la langue française et on est tous... je ne sais pas si c'est spécifique au Québec d'être aussi sensible sur les niveaux de langue et sur...
On a une maladie au Québec. C'est une maladie qui n'est pas dangereuse, mais qui est très, très largement répandue. C'est une maladie chez les francophones.
Oui.
Mes collègues belges qui ont inventé l'expression, ils disent un francophone, c'est quelqu'un qui souffre d'une hypertrophie de la glande grammaticale. Donc, c'est quelqu'un qui est toujours en train de s'interroger sur ce qu'il dit.
Oui.
Et donc, on a ça au Québec très, très fort, pour des raisons historiques bien évidentes, pour des raisons géographiques. Donc, c'est normal qu'on s'interroge là-dessus. Moi, ce qui m'inquiète, c'est quand on se met à dire « tout va mal ».
Mm-hmm.
Alors, par exemple, si on dit souvent les jeunes d'aujourd'hui ont de moins en moins de vocabulaire. Ben, quand on étudie ça de très près, quand on fait des études comparatives, c'est ça qui est important, c'est de dire on va prendre des jeunes à la même étape de leur développement, puis on va leur poser des questions, puis on va leur reposer des questions 20 ans plus tard, puis on va voir. Mais quand on fait ça, on constate que les jeunes de troisième secondaire au Québec actuellement ont un meilleur vocabulaire qu'il y a 25 ans. Donc, c'est pas vrai que le niveau baisse. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le sport. Ben, si vous prenez un journal, un quotidien, je le fais dans le livre, du début du 20e siècle, et si vous aimez pas ça, les anglicismes, ben, vous allez pas aimer vos lectures.
Non.
Parce que dans les articles sur le hockey, c'est truffé d'anglicismes.
Oui.
Ben, si vous prenez les nouvelles sportives d'aujourd'hui, c'est pas vrai. Donc, sur certains plans, prenez tous les langages techniques, tous les langages scientifiques. Il y a 70 ans, ça n'existait pas, ça. Hein? On avait des brakes sur notre char, puis on avait des bumpers. Puis à un moment donné, on a fait des vocabulaires français de l'automobile, on a fait des vocabulaires français de la production, on a fait des vocabulaires français de la comptabilité. Tous les vocabulaires existent en français. Donc, sur ce plan-là aussi, le niveau monte. C'est pas vrai que le niveau baisse. Donc, vous voyez, il faut absolument à chaque fois nuancer.
Et c'est ça, tout à fait. Et je trouve que c'est votre livre fait vraiment le tour du jardin. Et là, je viens de dire un mot que j'entends beaucoup dans les médias. Un mot qu'on appelle un mot béquille dans le jargon des médias. Le mot « vraiment ». C'est un mot qu'on entend tellement depuis, je vous dirais, 2 ans. Et c'est d'une façon exponentielle, les gens le mettent dans leur conversation de plus en plus. Comment vous expliquez qu'on ne se rende pas compte de certaines choses comme ça et qu'on ne corrige pas tout de suite?
Oui, dans ce que vous venez de dire, moi, le mot « vraiment », je ne le remarque pas. Je remarque le mot « tellement » que vous venez d'utiliser. Et donc, ça, c'est ça qui est frappant en matière de langue, c'est que chacun a sa propre oreille.
Oui.
Chacun va entendre des choses, alors, qui vont le déranger ou pas le déranger, ça dépend des personnes, mais chacun accroche sur certaines petites choses. J'ai fait une entrevue de radio il n'y a pas très longtemps, et j'ai reçu un courriel par la suite où la personne me reprochait de ne pas avoir utilisé de négation. Je vais pas au lieu de je ne vais pas. La personne me disait, mais c'est effrayant. On peut pas faire ça. Ça se peut pas. Si vous étiez en Afrique, si vous étiez en Belgique, si vous étiez en France, personne vous comprendrait. Ben, désolé, parce que dans 95% des situations à l'oral, on n'utilise pas la négation. Mais voyez, cette personne-là, elle remarquait ça. Vous remarquez vraiment. Moi, par exemple, dans mes bibites, dans mes obsessions, il y a un truc qui est très, très populaire au Québec, que personne ne remarque à peu près, et qui est l'utilisation du verbe quitter sans complément. J'ai quitté.
Oui.
Ben non, en bonne grammaire, ça prend un complément. Hein. J'ai quitté ma femme, j'ai quitté mon bureau, j'ai quitté mon emploi. Alors, peut-être que vous, quand vous l'entendez, ça ne vous frappe pas. Moi, toutes les fois que je l'entends, ça me frappe.
Oui, moi aussi, ça me frappe. Ouais, alors, oui, tout à fait.
Le plombier qui vient chez nous, qui se plante devant le mur, qui me dit « ma problématique, c'est ce tuyau-là ». Et non, il n'y a pas de problématique. Il y a un problème avec
oui,
le tuyau.
Oui, oui.
Donc, vous voyez, chacun accroche sur des choses comme ça.
Mm-hmm.
Évidemment, vraiment, c'est aussi lié probablement à une forme d'actualité. Et ce qu'on peut facilement imaginer, c'est que dans 3 ans, il y aura un autre mot à la place.
Oui.
Les mots arrivent, ils repartent, ils sont à la mode très, très fort pendant un certain temps, puis ils disparaissent. Actuellement, par exemple, le mot qui est à la mode, publicité partout, c'est le mot « urbain ». Alors, tout est urbain. Et ça, c'est nouveau.
Oui.
Je cite cette phrase dans mon livre qui m'a laissé assez ébahi. Il y a quelqu'un qui a un jour fait une recette sur le web de grilled cheese urbain. Expliquez-moi ce que c'est un grilled cheese urbain. Ça, je ne peux pas comprendre. Mais il y a 20 ans, urbain n'était pas à la mode. Là, il est à la mode. Et dans 10 ans, il y aura autre chose.
Oui.
Alors, moi, urbain, il me fatigue parce que je le vois partout. Mais je peux dire ça à des gens qui me disent « Ah oui, tiens, j'ai jamais entendu ça ». La langue, c'est l'objet de nos affections, c'est l'objet de nos investissements personnels. Donc, on a chacun comme ça des endroits où ça accroche ou des choses qu'on aime dire. Hein, c'est aussi l'inverse.
Tout à fait. À quel endroit on peut analyser justement le niveau de la langue, si ça baisse ou si ça devient, ça se développe? Où est-ce qu'on peut le remarquer davantage?
Dès qu'on dit le niveau baisse, ça veut dire qu'on est en train de faire une comparaison. Hein, c'était mieux avant et ça dépérit. Ben, si vous faites une comparaison, il faut avoir des points de comparaison.
Mm-hmm.
Il faut des points de comparaison semblables.
Mm-hmm.
Donc, je vous disais, prenons la langue des jeunes de 3e secondaire il y a 25 ans, on fait une étude, on la refait aujourd'hui, là, on a un point de comparaison,
mm-hmm.
le niveau monte sur le plan du vocabulaire.
Oui.
Prenons les articles sportifs, ben, allons lire la presse de 1920, puis allons voir ce qui se passe aujourd'hui. On peut faire la comparaison.
Mm-hmm.
Tout ce qui est écrit, ça se fait. Évidemment, à l'oral, on ne peut pas. On ne sait pas comment les gens parlaient en 1820. Alors, bien sûr, il y a des transcriptions, mais dès qu'il y a une transcription, il y a une intervention. Il y a quelqu'un qui a noté les choses à partir de son propre filtre.
Oui.
Et c'est pour ça que c'est si difficile de faire des comparaisons. On n'a pas ça. On n'a pas les outils qu'il faut.
Si on regarde Radio-Canada et qu'on compare deux époques de Radio-Canada, donc l'époque peut-être des années 70 et l'époque actuelle de Radio-Canada, Radio-Canada qui a toujours eu, un angle ou un besoin de parler la langue de belle façon. Il y a quand même eu un changement.
Alors, si vous voulez mon avis, le principal changement à Radio-Canada, il n'est pas dans le lexique qu'on utilise. On utilise pas mal les mêmes mots, avec probablement un petit peu plus de mots venus du Québec, des mots familiers, probablement un peu plus. Il n'y a aucun changement de syntaxe, c'est exactement la même phrase. Ce qui a changé, évidemment, c'est l'accent. C'est la prononciation. Mm-hmm. Et ça, c'est très, très frappant. Quand on écoute des émissions anciennes, on voit bien là, que le modèle linguistique pour l'accent, la prononciation, c'est Paris. Hein, c'est un accent très, très pointu. Ça, vous entendez plus ça aujourd'hui à Radio-Canada. Mais ça, moi, la question de l'accent, c'est une question à laquelle j'accorde très, très peu d'importance, parce qu'en fait, c'est la couche la plus superficielle de la langue. Tout le monde a un accent. Il y a juste les muets qui n'ont pas d'accent. Tout le monde a un accent, et donc il y a des accents plus prononcés, moins prononcés. Actuellement, en plus, partout dans le monde, il y a une homogénéisation des accents à cause de la diffusion par les médias. Les accents régionaux sont très, très en baisse partout dans le monde. Donc, pour moi, ce n'est pas une question très, très importante, mais c'est vrai que quand on écoute de vieilles émissions de Radio-Canada, des vieux téléthéâtres, par exemple, c'est très, très clair que là, on a changé de norme. On ne veut pas parler de la même façon.
Oui, mais si on prend le bulletin de nouvelles, par exemple, deux choses qui sont comparables, deux bulletins de nouvelles, celui des années 70 et celui de maintenant.
Il n'y a pas de différence majeure.
Donc, un peu plus de mots du vocabulaire courant, du vocabulaire qu'on utilise au quotidien pour rendre le bulletin de nouvelles plus sympathique, pour avoir un effet de proximité.
Mais c'est aussi parce que quand on essaie de comprendre ce qui distingue le français parlé au Québec du français parlé ailleurs, en France, en Belgique, en Afrique, peu importe, la principale distinction, c'est pas une distinction de syntaxe. On a la même syntaxe, c'est une différence d'accent et c'est une différence de lexique. C'est ça qui caractérise le français parlé au Québec. Et ça, il y a une reconnaissance de ça, tout simplement. On utilise des mots que les Français n'utilisent pas et inversement. Donc, c'est normal que, à certains moments, il y a eu cette volonté d'utiliser ces mots-là. En plus, il existe maintenant des dictionnaires qui les recensent, ces mots, et qui expliquent ce que ça veut dire au Québec, ce que ça veut dire en France. Donc, il y a une prise de conscience très, très forte que ce qui caractérise le français du Québec, c'est son vocabulaire. C'est pas du tout étonnant que les médias utilisent ce vocabulaire-là, parce que c'est le vocabulaire dans lequel nous baignons tous les jours.
Tout à fait. Quand on observe, disons, les vox pop, les entrevues avec les piétons dans les rues pour donner des opinions sur toutes sortes de choses, on voit que ça se fait en France, dans les bulletins de nouvelles sur TV5, et on voit que ça se fait aussi au Québec. Donc, on fait l'entrevue, disons, de quelqu'un sur un chantier de construction en France et au Québec, on a l'impression que l'homme ou la personne qui travaille sur le chantier de construction en France a beaucoup plus de vocabulaire et a beaucoup plus de facilité à s'exprimer qu'au Québec. Est-ce que c'est une fausse perception que nous avons?
C'est probablement une vraie perception, mais là, on n'est plus dans le domaine linguistique.
On est dans le domaine de la culture.
On est dans le domaine de la culture, on est presque dans le domaine de l'anthropologie.
Oui.
C'est un rapport différent au monde, c'est un rapport différent à la parole. C'est amusant que vous parliez de Vox Pop. Moi, j'ai un ami, un collègue à l'Université de Montréal, Francis Gingras, qui est historien de la langue, et quand on lui demande est-ce que le niveau baisse, c'est l'exemple qu'il donne.
Oui.
Prenez un micro-trottoir il y a 30 ans, prenez-en un aujourd'hui, vous allez devoir constater que le niveau monte, si on prend le cas du Québec.
Oui.
Mais évidemment, quand on compare avec ce qui se passe ailleurs, on va voir des rapports complètement différents à la parole, et ça, c'est lié aussi, je dirais, à la situation même dans laquelle on se trouve. Quand on est en train de faire un micro-trottoir, un vox pop, on ne parle pas de la même façon que lorsqu'on est à la maison.
Hein?
Donc là, il y a un effet de recherche nécessairement qui va jouer en France, en Belgique, comme ici. On se dit, attention, là, je suis en train d'être filmé, je suis en train d'être enregistré, il faut que je parle bien.
Oui, mais je trouve qu'en comparant, encore une fois, l'homme qui travaille sur les chantiers de construction, et là, je m'excuse pour les gars qui travaillent sur les chantiers de construction.
Dont mon frère.
Je sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple-là, c'est peut-être un mauvais exemple, mais bon, on prend un manutentionnaire, quelqu'un qui livre les fruits et légumes dans une épicerie en France et quelqu'un qui le fait ici au Québec, il y a un autre rapport à la culture parce que ce manutentionnaire en France fait des concours télévisés où on étale sa culture et ce manutentionnaire a une culture du cinéma extraordinaire ou une culture générale extraordinaire et s'exprime aussi différemment du manutentionnaire ici pour qui la culture n'a pas cette importance historique qu'elle a en France, par exemple.
En écrivant un livre, il y a une... un de mes premiers lecteurs, donc sur son manuscrit, qui m'a posé une question, ça m'a amené à essayer de trouver une réponse à sa question. Alors lui, il enseigne le français au Canada anglais. Et il dit au Canada anglais, il y avait souvent, moins aujourd'hui, mais il y a eu longtemps un mépris pour le français parlé au Québec en disant « c'est pas du vrai français ». Donc ce collègue me dit « mais qu'est-ce que je dois répondre aux gens qui me disent ça ?» Donc j'ai dû moi-même essayer de me trouver une réponse. Et j'en suis venu à la conclusion que ce qui distingue sur le plan de la langue la France du Québec, c'est qu'au Québec, la distance entre la langue quotidienne et le registre soutenu, cette distance-là est probablement beaucoup plus grande qu'en France. Mm-hmm. Et là, il y a vraiment... si vous écoutez le téléjournal de Radio-Canada, c'est du français correct, c'est un registre soutenu. Et ça, vous pouvez très bien mettre ça à côté du téléjournal français et vous n'aurez pas là, de différence majeure.
Non, effectivement.
Mais c'est vrai que dans votre vox pop, il peut y avoir des différences plus grandes. C'est comme s'il y avait deux façons de concevoir le langage. En fait, il y en a plusieurs, mais il y en a au moins deux, hein, qui est celle d'être dans la vie quotidienne et donc d'avoir une attitude plus libre, disons ça comme ça, envers le langage. Et dès qu'on est dans un registre plus soutenu, là, on va faire plus attention. Cette distance-là est probablement beaucoup plus grande au Québec qu'ailleurs.
Oui. Parlons un petit peu de ce que vous soulevez dans le livre. Les Québécois parlent-ils français?
Ça me fait de la peine de devoir me poser la question et de devoir y répondre.
Alors, je trouve ça très charmant, cette question-là. Et est-ce que c'est le bon français que les Québécois parlent? Parce que... souvent, encore une fois, on compare avec la France. Le français vient de France. Et là, on sait que en France, spécialement à Paris, il y a de plus en plus de mots anglais qui sont utilisés dans la langue et beaucoup plus qu'ici. On utilise un peu moins d'anglicisme que les Français. Donc, on peut comprendre les raisons historiques qui amènent à nous comparer toujours aux Français, mais est-ce qu'on peut dire que c'est... Et pourquoi on peut dire que c'est le français que nous parlons?
Alors, la première chose... Il faut rappeler qu'on parle français parce que périodiquement, au Québec, on imagine qu'on parle une autre langue. Et c'est une vieille question. Hein? En 1867, Octave Crémazy écrivait une lettre à l'abbé Casirin en disant « Si au moins on avait une langue à nous, si au moins on parlait Iroquois ou Huron, ça nous distinguerait des Français. » Donc c'est une vieille idée ça, qu'on aurait peut-être soit véritablement une langue propre, soit avantage à avoir une langue propre. Au 20e siècle, ça s'est appelé le joual. Hein? Voilà, nous avons trouvé notre langue. Hein? On parle joual. L'été dernier, à Montréal, il y a eu tout un débat là, sur le franglais. Vous voyez encore régulièrement des gens dire la langue québécoise. Alors, mon livre, c'est un peu pour dire non. Nous parlons français. Il n'y a à peu près aucune différence syntaxique entre le français parlé ici et le français parlé ailleurs dans le monde. Il y a 25%, et ça, Marie-Eva de Villers, la linguiste, a fait des études très, très précises. Il y a 25% de vocabulaire qui est différent et il y a l'accent qui est différent. Donc, arrêtons de faire semblant qu'on a notre langue à nous. Le premier article de la Charte de la langue française, la loi 101, en 1977, c'est « Le français est la langue officielle du Québec. » Pas le joual, pas le huron, pas le franglais, pas la langue québécoise, c'est le français. Alors, c'est un clou sur lequel il faut taper périodiquement. Est-ce qu'il y a un bon français? Alors, moi, ma position là-dessus, elle n'est pas partagée par tout le monde, mais ça consiste à dire qu'il y a un bon français pour chaque situation dans laquelle on se trouve.
Mm-hmm.
On ne parle pas de la même façon, vous et moi, ce dimanche matin à la radio, de la même façon que si on était devant des joueurs de soccer ou devant un match d'hockey.
Non,
moi, quand je vois mes fils jouer au football, je crie « defense » comme tout le monde. Et je n'ai pas l'impression de mal parler ou de ne pas maîtriser le bon français.
Oui.
Donc, et c'est ça, c'est une chose. Le français a cette caractéristique d'être une langue très, très centralisée, ce qui n'est pas vrai de l'anglais. Si on vous demande où parle-t-on le meilleur français, les gens répondent spontanément, c'est à Paris. Si on vous pose la même question en anglais, vous ne pouvez pas répondre.
Mm-hmm.
Est-ce que c'est à Londres, à New York, à Los Angeles, à New Delhi? Donc, le français est une langue hyper centralisée. C'est une langue qui n'est pas très accueillante pour les néologismes. Donc, mm-hmm. Vous voulez inventer un mot en anglais, vous l'inventez. Quelqu'un va le reprendre ou personne va le reprendre. Il va vivre ou il va mourir, peu importe. En français, il y a des commissions de néologie. Ils vont dire, OK, votre néologisme, il est bon ou il n'est pas bon. Donc, à partir du moment où vous avez une langue comme ça, très, très centralisée, assez résistante au changement, vous pouvez effectivement avoir l'impression qu'il y a une bonne façon de parler. Moi, je ne crois pas ça. Il y a mm-hmm. plusieurs façons de parler et donc, il faut choisir. Sur la question des anglicismes, vous habitez en France, il y a 70 millions de Français. Ils sont entourés par d'autres francophones, hein, les Suisses, les Belges. Leur langue n'est pas menacée. Donc, pour eux, l'anglicisme, c'est très souvent une marque de standing, comme ils disent. Pas de standing, mais de standing. Donc, ils prennent un mot anglais puis le français. Et c'est devenu, en France, moi, ça me fatigue comme tout le monde, mais pour moi, c'est devenu une chose très, très comique. Quand moi, je vois des Français faire du footing, je me dis, mais comment vous pouvez faire du footing? Ça n'existe pas en anglais. Donc, ils ont inventé un faux anglicisme.
Oui.
Vous allez chez le coiffeur, il faut un brushing. Ça n'existe pas, ça, en anglais. Vous vous achetez une maison mobile, puis vous faites du caravanning. Ça n'existe pas en anglais. Mais donc, il y a là une façon d'accueillir. On invente des mots qui ont une consonance anglaise, on les utilise, et il y a évidemment aucune menace que ça, ça fait porter sur la langue. Ça oui. nous fatigue quand on débarque et qu'on voit ça à Paris. Il y a même eu une campagne publicitaire récemment sur les médias, sur les réseaux sociaux, pour se moquer des Français qui utilisent trop d'anglicisme. C'est une campagne française. Évidemment, au Québec, la question des anglicismes, elle est complètement différente. Parce que, évidemment, on est entouré de mots anglais. Et là, il y a une menace sur le français. Donc, on ne peut pas dire les anglicismes, c'est ce que je dis dans le livre, on ne peut pas dire les anglicismes en général, c'est le mal. Les anglicismes, à une certaine époque, ils ont un certain statut. Et ils n'ont pas le même statut selon l'endroit où on est. Si vous regardez les journaux montréalais, vous prenez Le Devoir, par exemple, Marie-Éva de Villers a fait l'analyse, il n'y a pratiquement pas d'anglicisme. Il y a une autre analyse qui vient de sortir du Conseil supérieur de la langue française du Québec qui compare des journaux il y a 10 ans aux journaux d'aujourd'hui. Les anglicismes sont en baisse. Donc, il n'est pas là le problème. Il est probablement dans certains vocabulaires où on n'a pas le vocabulaire français, donc on doit utiliser des mots anglais, ou le vocabulaire existe, mais on ne le connaît pas et on ne le maîtrise pas. Mais sinon, on peut très bien dire les anglicismes, c'est un problème dans certaines situations et pas dans toutes les situations. Donc, c'est ce que j'essaie de montrer, moi, tout au long du livre. Là. Il faudrait avoir une attitude un peu moins crispée envers le français.
Oui.
Il faudrait se dire, pas simplement, l'anglicisme, c'est le mal. On va se dire, qu'est-ce que ça veut dire, l'anglicisme? Dans quelle situation? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour utiliser autre chose que des anglicismes quand on a besoin d'autre chose?
Oui, j'aime bien, en tout cas, votre livre par sa façon de repositionner le débat sur la langue et à travers toutes ces idées reçues que vous nous exposez, comme par exemple qu'on maîtrise bien la langue quand on est capable d'accorder le participe passé. Alors, ça, c'est une belle idée reçue aussi. Il y en a plein d'autres dans ce livre-là. Alors, je pense que les gens qui nous écoutent vont être très intéressés par ce livre qui est publié aux éditions Del Busso. Ça vient tout juste de sortir. Ça s'appelle « Le niveau baisse », écrit par Benoît Melançon. Benoît Melançon qui est avec nous encore pour quelques minutes pour parler un petit peu de vous maintenant, parce que j'ai pris comme prétexte votre livre pour vous
bon
interroger.
Je vous pardonne son bon prétexte.
Mais vous êtes, comme je l'ai dit tout à l'heure, professeur titulaire et même directeur du département d'études littéraires de langue française à l'Université de Montréal. Et étant donné que j'ai étudié dans ce domaine-là, que j'ai fait mon bac à l'Université de Montréal, mon premier bac à l'Université de Montréal, je suis très contente de pouvoir profiter de votre présence pour un petit peu comprendre comment cette carrière universitaire est arrivée dans votre vie.
Alors, ce qui est très bien dans la vie universitaire, il y a toutes sortes de choses qui nous amusent moins, mais ce qui est très, très bien dans la vie universitaire, c'est qu'on nous donne le temps de faire des choses qui prennent du temps.
Mm-hmm.
On entend ça partout autour de nous. Hein, je suis pressé, j'ai pas le temps de faire ceci, j'ai pas le temps de faire cela. Quand on a une carrière universitaire, on peut se dire, là, je vais consacrer quelques années de ma vie à une question.
Oui.
Alors, là, il y a différentes façons à partir de là de considérer l'affaire. Moi, j'ai fait une thèse de doctorat sur la littérature française du 18e siècle. J'ai travaillé sur Denis Diderot et sa correspondance, donc ses lettres. Donc là, je suis devant un sujet pointu, et c'est fait pour ça une thèse de doctorat. C'est pour analyser un sujet pointu. Alors moi, je voulais comprendre qu'est-ce que c'était qu'une lettre. Tout le monde a l'impression de savoir ce que c'est, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc j'ai travaillé là-dessus 4 ans. Et l'université nous donne la possibilité de faire ça. Alors, une fois cette thèse-là terminée, j'ai été engagé à l'Université de Montréal pour un poste en littérature française du 18e siècle. Je continue à m'intéresser à ça. Je fais des publications dans ce domaine-là. Mais j'ai choisi, moi, très tôt, de ne pas me cantonner dans un seul domaine. Et de ne pas me cantonner non plus dans un seul public. Donc, je continue à faire du 18e, mais le deuxième gros livre que j'ai fait après ma thèse, c'est un livre sur Maurice Richard. Et vous allez me dire, quel est le rapport entre le 18e siècle français et un joueur de hockey du 20e?
Publié chez Fidesz.
Voilà. Alors, moi, l'idée, c'est un peu la même, d'une certaine façon. Nous sommes entourés de récits, nous sommes entourés de discours. Les gens nous racontent des histoires.
Oui.
Alors, c'est raconter des histoires sur Maurice Richard de 1942 jusqu'à aujourd'hui. Je suis à une conférence ces jours-ci qui s'appelle « Maurice Richard n'est pas mort ». Selon moi, même s'il est mort officiellement en l'an 2000, mm-hmm. il est encore partout dans la culture québécoise.
Oui.
Mais là, évidemment, faisant un livre comme celui-là, c'est pareil, là, j'y ai mis beaucoup de temps, parce que l'université me permet de faire des recherches sur une longue durée. Faisant un livre comme ça, je me suis dit, je ne peux pas m'adresser uniquement aux spécialistes. Donc le livre, et mon livre commence comme ça, c'est pas un livre pour les amateurs de hockey. Les amateurs de hockey vont le lire, ils vont y trouver quelque chose. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler à un public en général qui s'intéresse à ce que c'est que la société québécoise au 20e siècle. Parce que Maurice Richard permet de révéler toutes sortes de choses mm-hmm. sur la culture. Il y a des romans sur Maurice Richard, il y a des pièces de théâtre, il y a des poèmes, il y a des films, il y a des sculptures. Oui. Vous pouviez acheter à une époque un pyjama Maurice Richard. Mais tout ça, ça dit quelque chose de la société québécoise. Donc là, j'ai fait une recherche aussi de longue durée, mais le livre a été écrit de façon complètement différente. Une chose toute bête, mon premier livre, il y a des centaines, sinon des milliers de notes de bas de page. C'est une thèse de doctorat, c'est comme ça qu'on fait. Dans le Maurice Richard, il n'y en a pas du tout. De la même façon, pour le niveau baisse, j'ai fait des recherches très étendues aussi, mais comme je veux toucher dans ce livre-là un public assez large, j'ai une longue bibliographie, j'ai une section source à la fin, mais je ne m'appuie pas continuellement sur des travaux universitaires, sur des travaux savants. Il y a ces deux choses-là, l'université. Moi, j'aime beaucoup l'université. Je trouve que c'est une belle chose, l'université.
Oui.
Ça permet de faire des choses comme ça. Ça permet de dire, sur une question précise, je vais m'adresser à des spécialistes, parce que le savoir, c'est comme ça que ça marche.
Oui.
Et dans d'autres contextes, on peut dire, tiens, je vais faire quelque chose pour un public différent, qui est aussi appuyé sur un savoir, mais qui n'a pas besoin du même appareil.
Oui. Est-ce que vous avez trouvé là-dedans une bonne solution à l'exigence qui devenait de plus en plus grande de publier lorsque vous avez commencé à faire votre doctorat? Parce qu'à cette époque-là, ça a été l'exigence qui est venue, là.
Mais ça, c'est une drôle d'affaire parce que, d'une part, on conteste beaucoup ce principe-là. En anglais, ça s'appelle le « publish or perish ». Donc, mm-hmm. si à l'université, vous ne publiez pas, vous mourrez.
Oui.
Vous perdez votre poste. Mm-hmm. Et donc, c'est vrai. Et c'est vrai qu'à une époque, on insistait beaucoup dans les administrations universitaires là-dessus. Moi, je suis directeur de département, vous l'avez dit. Je pousse pas mes collègues à publier
donc
sans relâche.
Donc, c'est en train de se terminer, cette époque-là.
Disons qu'il y a moyen de nuancer un peu l'affaire. Mais en plus, ça dépend beaucoup des disciplines. Hein. Mm-hmm. Dans notre discipline, nous, en études littéraires, il faut publier. Parce que simplement, on est des êtres de mots.
Oui.
En même temps, vous voyez, par ailleurs, moi, j'aime ça écrire. Donc, qu'on me pousse à publier, pour moi, c'est pas un problème. C'est pas un problème. En 2009, j'ai créé un blog parce que je me rendais compte que je pouvais difficilement mener à terme de longs projets, comme ceux dont je vous parlais tout à l'heure, parce que j'ai beaucoup de travail administratif. Et donc, je me suis dit, je veux écrire. Quelle forme je vais trouver pour pouvoir écrire souvent et pour m'amuser? Donc, j'ai créé un blog qui s'appelle L'Oreille Tendue. Il y a certains des textes de L'Oreille Tendue qui se retrouvent dans le livre de niveau baisse. Mais donc, je peux difficilement me dire, faites attention, ne publiez pas trop. Moi, j'aime ça publier, j'aime ça écrire, donc je trouve les plateformes qui me conviennent et j'adapte ce que je raconte au public auquel je m'adresse.
Oui, bien c'est merveilleux. J'étais très contente de vous recevoir aujourd'hui, M. Melançon, avec cette belle carrière universitaire et toutes ces publications. Est-ce que vous avez le temps un petit peu pour aller à la pêche? Quels sont vos loisirs en dehors de l'université?
Mes loisirs, c'est le fait d'avoir deux enfants adolescents.
Oui.
Ça vous occupe des loisirs
quand même
pas mal. Mais ça aussi, c'est à la fois un des avantages et des désavantages d'être prof d'université. Je vous dis, on nous laisse du temps. Donc, on est libre de notre temps en partie. Bon, évidemment, on peut prendre tout ce temps-là pour travailler. Très souvent, ce qui est très fréquent chez les profs d'université. Mais on peut aussi dire, je vais moduler mon emploi du temps de telle façon que je puisse aller voir des matchs de sport de mes enfants ou faire d'autres activités. Mais ça, c'est vraiment, c'est une question... Alors, en plus, là, ça varie beaucoup selon le moment où on est dans sa carrière. Jeune prof, on se sent obligé de faire beaucoup de choses parce qu'on se dit, c'est comme ça que je vais avoir les promotions que j'espère avoir, c'est comme ça que je vais être reconnu par mes pairs. Puis arrive un moment, on peut se dire, il y a d'autres types de reconnaissance que celui-là, il y a d'autres calendriers. Et donc, moi, j'aime bien, je me lève très très tôt le matin, ce qui me permet de moduler un peu ma journée par la suite. Mais l'université, c'est aussi ça. C'est-à-dire, c'est la possibilité de dire, soyez autonome, vous avez à prouver que vous êtes compétent dans ce que vous faites, mais vous n'avez pas besoin de pointer, vous n'avez pas besoin d'être là de 9 à 5. Hein.
Oui.
C'est à vous de faire la démonstration que vous êtes au courant de ce qui se passe, que vous faites votre travail. Donc, on peut assez bien vivre comme ça.
C'est extraordinaire. En tout cas, on voit à travers toutes les publications que vous êtes très actif encore, M. Melançon. On vous souhaite encore plusieurs belles années.
Et j'espère moi aussi en avoir plusieurs.
Oui. Et en attendant, on va aller se procurer le livre « Le niveau baisse » si la question de la langue française nous intéresse et nous interpelle, parce que quand on regarde le bulletin de nouvelles en soirée, les mots béquilles ou certains phrasés nous fatiguent, on veut remettre ça, on veut se questionner là-dessus. Eh bien, « Le niveau baisse » est sans doute un livre pour nous, écrit par Benoît Melançon aux éditions Del Busseau. Merci beaucoup d'avoir été
C'est
là.
C'est un plaisir.
La sixième édition du Multidictionnaire de la langue française, signé Marie-Éva de Villers, est enfin disponible. 10 ouvrages de référence en un seul, un outil indispensable pour tout étudiant, professionnel ou spécialiste de la langue. Découvrez-le en version imprimée et en ligne, multidictionnaire.com.
Les résidences du soleil. Jean Dubelage, ici Aidé Savoie. Tout au long d'année, si vous recherchez un endroit sécuritaire suite à une opération d'un jour ou pour une vacance au Résidence Soleil, on vous l'offre à partir de 50 $ par jour avec repas et commodité.
1-800-363-0663.
Ma place au soleil.
Linen Chest, le plus grand détaillant indépendant de produits Hunter Douglas, vous offre présentement d'épargner jusqu'à 50% sur tous les habillages de fenêtres sur mesure, en plus d'obtenir, et ce pour une durée limitée, une carte cadeau de 100 $ pour chaque achat de 500 $ de store et parure de fenêtres Hunter Douglas. Profitez dès maintenant de cette offre spéciale et de leur garantie du plus bas prix en téléphonant à leur service gratuit de décoration à domicile au 514-331-5260 ou en visitant linenchest.com.
Lorsque la chaleur du jour cède sa place aux nuits fraîches et que les fruits gorgés de soleil mûrissent lentement sur les vignes, la vie ne peut se savourer autrement que de délicieuses façons. De sa Californie d'origine, la maison Cupcake Vineyards offre une gamme complète de vins à dominance fruitée, finement élaborés et voluptueux, qui rehaussent délicieusement vos mets lors de toutes sortes d'événements. Disponible à la SAQ, en rouge et en blanc. Recherchez le nom Cupcake. Veuillez consommer nos produits avec modération.
La Ville de Longueuil vous informe qu'il y aura une collecte de résidus verts les lundis jusqu'au 23 novembre. Notez qu'il y aura aussi une collecte de branches le jeudi 12 novembre. Les résidus et les branches devront être placés en bordure de rue entre 20h la veille et 7h le matin de la collecte. Plus de détails à longueuil.quebec/collecte.
Le multidictionnaire de la langue française intègre dans un seul ordre alphabétique tous les renseignements utiles. Orthographe, grammaire, syntaxe, typographie, difficultés de la langue, conjugaison, québéquisme, anglicisme et modèle de correspondance. La description la plus fidèle du bon usage contemporain du français au Québec. Cette édition, revue et corrigée, comprend 1500 nouveaux articles, plus de 100 tableaux couvrant les notions fondamentales de la grammaire ainsi que 76 modèles complets de conjugaison. Consultation facile et rapide. Découvrez-le en version imprimée et en ligne. Multidictionnaire.com.
FM 103.3. La radio allumée.
Les résidences soleil.
Vivre, une présentation des résidences soleil. Jean Dubelage, vous voulez vivre une vie ensoleillée? Venez vivre les résidences soleil. Pour plus d'informations, téléphonez au 1-800-363-0663.
Monsieur Debeur, quel gourmand j'ai devant moi, mon Dieu. Comment allez-vous?
Ça va bien, merci. Très bien.
Ben oui, c'est le fun. Donc, la saison se rafraîchit, mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas de plaisir, parce que l'automne, c'est aussi la période des parties d'huîtres. Et moi, je me rappelle ma mère qui me racontait dans sa jeunesse les parties d'huîtres qu'elle avait. Donc, c'était tout des parties assez intéressants. Donc, vous nous invitez à renouer avec cette tradition.
Ben absolument, ben ça a lieu tous les ans en fait. Hein. Je trouve que c'est une belle activité, sauf que je trouve qu'elles deviennent très chères, les huîtres en ce moment. Ça coûte moins cher de manger du homard pratiquement que de manger des huîtres. Hein. C'est quand vous payez $1.50 et plus chaque huître. Oui. Vous en prenez une douzaine, c'est 18-20 $ pour une douzaine d'huîtres. Faites un party avec des amis, si vous prenez 3-4 douzaines, vous allez vous retrouver avec 60-80 $ d'huîtres par personne.
Oui.
De se dire, c'est mieux de prendre du homard, ça coûte moins cher, hein. À 15-16 $ la livre. Ça revient moins cher de manger du homard. Mais bon, en tout cas, si on veut se payer une partie d'huître, peut-être on n'est pas obligé d'en manger 5 douzaines.
Hein. Ça, peut-être.
Donc, on en a mangé plusieurs sortes. Hein. Il y a la Raspberry Point aussi, qui est une huître, paraît-il. C'est vrai, je l'ai goûtée. Elle est très bonne aussi, qui serait le top des huîtres en ce moment. Moi, personnellement, j'aime mieux une huître canadienne qui est la Malbec. Moi, cette année, c'est la Malbec qui a eu notre coup de cœur. On en trouve d'ailleurs chez Odessa Poissonnier. D'ailleurs, si vous allez sur debeur.com, il y a le lien pour trouver les succursales de Odessa Poissonnier. On sait que c'est plus les plus grandes poissonneries au Québec. Hein. Oui. Je pense qu'il faut les encourager parce que c'est dur. Oui, c'est dur de tenir des grosses entreprises comme ça, des grands magasins comme ça. Là. Je veux dire, ça prend du personnel, ça prend savoir bien gérer ses stocks et tout pour avoir de la fraîcheur, parce qu'il faut reconnaître qu'on a quand même beaucoup de fraîcheur dans ces magasins-là. Mais voilà, en tout cas, ça c'est mon petit... ma petite note à ce sujet-là.
Mais c'est vrai qu'il faut encourager les gens de chez nous. On le répète jamais assez, M. Debeur.
Absolument.
Vous nous parlez maintenant d'un vin blanc qui nous vient de Nouvelle-Zélande, mais c'est le fun aussi de voyager à travers le monde, à travers les produits qu'on a ici. Et un Stoneleigh Sauvignon blanc que j'aime beaucoup. Vous nous proposez ça aujourd'hui.
C'est de la maison Corbin Wines. C'est un vin à 18,30 $. Ça ira très bien d'ailleurs avec les huîtres. C'est pour ça que je l'ai mis d'ailleurs avec mon choix d'aujourd'hui. Cet vin est issu de vignes plantées dans un terroir qui est jonché de pierres blanches. Alors ça, ça prend le soleil le jour et ça continue à enrichir de chaleur la vigne.
C'est minéral.
Hein. Voilà, absolument. Ce sont on les appelle d'ailleurs les pierres de soleil. Elles apportent au raisin cette chaleur très concentrée. Et donc ce vin blanc, il s'ouvre sur des odeurs intenses de pamplemousse, avec une touche minérale et végétale. C'est fruité, c'est long, c'est gras, c'est frais en bouche, avec une petite touche perlante qui ajoute d'ailleurs un petit peu à sa fraîcheur. Perlante, ça veut dire un peu carbonique, si on veut.
Ouais.
Les Italiens appellent ça frizzante. Mm-hmm. Très joli, hein, comme mot. Et ça donne une sensation de fraîcheur supplémentaire. Alors ça servir, par exemple, à 8 degrés, 10 degrés Celsius, en même temps que des fruits de mer en cassolette, par exemple, cassolette de fruits de mer, c'est très bon. Des huîtres, bien sûr, un homard grillé, et puis voilà. Faites-vous plaisir.
On se fait plaisir aussi avec le guide Achète des vins 2016. C'est le Salon du Livre dans quelques jours. Ça va vite, hein?
Et vite.
C'est sûr que le Salon du Livre, c'est le moment où on va regarder les achats qu'on va faire pour Noël. Et ça, c'est peut-être un guide à acheter en cadeau à un amateur de vin.
Surtout ceux qui aiment les vins français, parce que bien sûr, ce sont exclusivement des vins français.
Oui.
Ce que j'ai trouvé d'intéressant aussi, c'est qu'il y a quand même, il y a eu 40 000 vins. Il n'y a pas une personne qui a fait ça, sinon je voudrais pas avoir l'allure de son foie, parce que je pense que la cirrhose, là, c'est certain qu'il l'a.
Oui.
Mais donc c'est une équipe, ce sont des équipes même qui goûtent ces vins-là, à l'aveugle. Ils ont dégusté 40 000 produits, ils n'ont retenu que 10 000, c'est quand même pas mal, 10 000 produits pour un guide. Et ce que je trouve intéressant, c'est que, vous savez, avec cette mode maintenant de vin d'importation privée,
oui.
On ne sait plus trop le prix du vin qu'on paye. Parce que des fois, vous payez un vin, mettons 40 $, $30 la bouteille, et puis en fait le vin il a coûté 10 $, tu sais, pour ça, parce qu'il est, c'est un, on fait maintenant des vins à 10, 20, 15 $ qui valent psychologiquement des sensations de vin qui valent ces prix-là et même plus. Donc on ne sait plus trop comment le restaurateur, lui, va ajuster ses prix. Mais si vous aimez les vins français, là vous avez une idée déjà, parce que dans chaque vin, il y a le prix à la propriété,
bravo.
En euros. Donc vous avez rajouté 50% et vous avez le prix en dollars canadiens.
Yes, hein? Yes.
Avec un vin qui est mis à 5 €, il vaut 7... bien sûr, il y a les taxes aussi à la SAQ, dont il faut tenir compte. On sait qu'il s'échappe bien, mais ça vous donne déjà une idée de,
oui.
en termes de proportion.
Oui.
Hein? Voilà.
Tout à fait.
Donc c'est un guide des vins, je dis que où il y a plein d'informations à l'intérieur. On va y trouver des sections avec les descriptions au début de chaque section, description de chaque région. Il va y avoir des index par vin, par cépage, par commune, par producteur. Et on peut aussi d'ailleurs télécharger des applications Achète Vin, où on va avoir là-dedans Accord Mets et Vins, Vin et Millésime par exemple, celle-ci est gratuite. L'autre, Accord Mets et Vins, je pense que c'est quelque chose que pour l'année, 5 €, quelque chose comme ça, ou 1 €. Enfin, c'est vraiment pas cher, on parle de 5-6 $. Vous avez donc, et même le guide achète complet, voilà. En fait, c'est le guide achète complet qui est pour 5 €, c'est-à-dire 7,50 $. Waouh, c'est
ça. Waouh, super. Vraiment.
Alors, un ouvrage très, très complet pour ceux qui aiment les vins français, bien sûr. Puis que je répète, pour ceux qui veulent savoir si les prix des vins d'importation privée dans les restos sont exagérés ou non.
Bonne idée, monsieur Debeur. Debeur.com pour plus d'informations.
Des arcs, des corridors et des falaises. chair de femme. Et en juillet, le fleuve est tiède sur les battures. Au mois de mai, à marée basse, voilà les soies. Depuis des siècles, au mois de juin, partis les oies. Mais nous les gens, les descendants de la Rochelle, présents tout le temps, surtout l'hiver, comme les cendres. Mais c'est pas vrai.
Des résidences Soleil. Jean Dubelage, vous voulez vivre une vie ensoleillée? Venez vivre les résidences Soleil. Pour plus d'informations, téléphonez au 1-800-363-0663.
Monsieur Aidé Savoie, bon matin.
Bonjour, Mme Trudel. Vous êtes de bonne humeur ce matin encore?
Ah, oh, toujours de bonne humeur, M. Savoie.
Comme au Résidence Soleil.
Oui, comme dit Jeannette Bertrand, il faut se faire notre propre bonheur. Hein? Faut pas attendre après les autres et après la vie. Il faut se le créer soi-même. Quand on veut du sucre à crème, on s'en fait. Hein?
Exactement.
On va parler d'une notion très importante pour moi, M. Savoie, la liberté. Quand j'ai commencé à vivre avec mon conjoint, j'ai dit la chose la plus importante pour moi, mon amour, c'est la liberté. Donc, avoir des comptes à rendre quand on est grand, quand on vieillit, comme quand on était un enfant, ben on aime moins ça. Alors, au Résidence Soleil, on veut continuer à avoir cette liberté-là.
Exactement. Puis pour nous, c'est très, très important. C'est la raison pour laquelle on dit aux gens, quand vous venez demeurer dans une des Résidences Soleil, vous avez toute la bâtisse. Vous pouvez aller à la salle à manger quand vous voulez. Vous pouvez aller à la piscine dans longtemps que vous êtes accompagné d'une autre personne, parce qu'ils ne peuvent pas y aller seuls, mais ils sont des amis, ils peuvent y aller avec un ami n'importe quel temps. Mais il n'y a rien d'obligé. Qu'il y ait une conférence qui est donnée ou qu'il y ait d'artisanat du bingo, ils vont à leur rythme à eux autres. Il n'y a jamais rien qui est obligé pour la personne. Fait que pour nous, c'est très important. Parce que s'il y a de la messe, du chapelet, ils vont s'ils veulent. Puis ça, pour nous, c'est très important. S'ils veulent recevoir le garçon à 3 heures de la nuit, il y a toujours quelqu'un à la réception. S'ils se sentent seuls la nuit qu'ils veulent appeler quelqu'un, ils peuvent le faire. C'est pour ça qu'on dit quand même qu'on recrée quand même une ambiance comme ils seraient chez eux. Puis ça, pour les gens du bel âge, c'est très important. Tu sais, ils sont pas comme des gens qu'on leur donne des ordres de « tu vas faire ci, tu vas faire ça ». Ils ont quand même leurs critères à respecter. C'est certain qu'on ne veut pas qu'ils sortent par des portes de côté et les laisser ouvertes, mais ils ont la liberté d'agir comme s'ils seraient à la maison. Puis souvent, les gens, ils nous disent ça. On aime ça ici parce qu'il y a on n'est jamais obligé de participer à quelque chose, ça ne tente pas. S'il y a des exercices à la piscine, s'ils veulent y aller, ils y vont. Comme à l'artisanat, comme aller faire de la peinture, tout à la bibliothèque, ils peuvent y aller tant qu'ils veulent, mais il n'y a pas de temps de dire de telle heure, tu vas être obligé d'y aller. Fait comme ça, les gens se sentent beaucoup plus à l'aise.
Et c'est très important, cette notion de liberté. C'est important tout au long de notre vie. Et même quand on change d'endroit, quand on casse maison, comme on dit, c'est une des choses qui nous retient le plus souvent à la maison. On se dit, ben chez nous, au moins, c'est moi qui décide. Mais là, au Résidence Soleil, c'est vous aussi qui décidez. Alors, si on veut se renseigner sur les Résidences Soleil, on téléphone à quel endroit?
1-800-363-0663. Puis comme je dis toujours, c'est porte ouverte 365 jours par année aux Résidences Soleil. Simplement qu'elle nous appelle, prendre un rendez-vous. Ou quand vous passez dans le secteur, s'il y a une Résidence Soleil, vous pouvez arrêter de nous voir tous les jours de 9h à 5h. Puis si vous voulez passer dans la soirée, simplement qu'à appeler, puis on va faire rester un conseiller à Neuvergemer pour pouvoir vous donner les renseignements que vous voulez.
Formidable. Merci beaucoup, M. Aidé Savoie. Merci encore de commanditer l'émission Vivre. Mm-hmm. C'est très, très apprécié.
Oui. Puis moi aussi, c'est un peu plaisir de venir vous voir parce que vous gardez toujours votre beau sourire.
Eh bien, continuez comme ça. Vous êtes, vous aussi, très de bonne humeur et en parfaite santé. Donc, ça me fait très plaisir de vous rencontrer comme ça régulièrement, M. Savoie.
Vendre la terre qui était mouillée, rouillée, souillée. regarder au loin, les yeux roulant dans l'eau, passer le train. Me voilà au milieu du désert, seul avec moi, sans amis ni abri nucléaire. Me voilà au milieu de nowhere, sans foi ni loi, mais où donc est le point de repère? J'ai dû vendre la terre qui était mouillée, rouillée, souillée. Minable vie sans lumière, à regarder au loin sans jamais y monter. Passer le train,
passer le train,
passer le train,
passer le train,
passer le train.
Et voilà, c'est déjà tout pour l'émission de ce matin. On se retrouve dimanche prochain pour un autre épisode de Vivre. Bonne journée, bon dimanche.
Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu, ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel, mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps, croyant l'arrêter, et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé, ignorant le passé, conjuguant au futur. Je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon, pour critiquer le monde avec désinvolture. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis, que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister, mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute, j'ai fait le vide autour de moi, et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années, du meilleur et du pire en jetant le meilleur. J'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent? À présent, mes 20 ans.
Êtes-vous prêt
pour le méga bingo double du FM 103.3? Deux fois
5 000 $.
Le samedi 31 octobre
à 10h et 13h.
FM 103.3.
L'établissement vinicole Big House est situé à Soledad, dans le comté de Monterey, en Californie, tout près du pénitencier Soledad State Correctional Facility, communément appelé The Big House. C'est ce qui explique qu'on exploite ce thème carcéral sur toutes les étiquettes de ses produits. Disponible à la SAQ en rouge et en blanc, en format de 750 ml et de 3 litres, ce vin aux arômes fruités saura accompagner vos plats préférés. Recherchez le nom Big House. Veuillez consommer nos produits avec modération.
Les résidents du soleil.
Jean Dubelage, ici Aidé Savoie. Tout au long d'année, si vous recherchez un endroit sécuritaire suite à une opération d'un jour ou pour une vacance, au Résidence Soleil, on vous l'offre à partir de 50 $ par jour avec repas et commodité.
1-800-363-0663.
La place au soleil.
Célébritour vous invite à venir les rencontrer au Salon international Tourisme Voyage du 23 au 25 octobre à la Place Bonaventure. Leurs spécialistes se feront un plaisir de vous aider à planifier votre prochain voyage, à vous informer de leurs nouvelles destinations et de leurs nombreuses promotions vacances. Assistez aux conférences et découvrez les plus belles régions du monde que vous offre Célébritour à des prix imbattables. On vous attend cette fin de semaine au Salon international du voyage à la Place Bonaventure.
Chez Vincent Sous-Marin, on commence la journée du bon pied avec un savoureux déjeuner santé comprenant le café à volonté. Venez déguster ce que Vincent Sous-Marin a de meilleur à vous offrir. Achetez un sous-marin 14 pouces à prix régulier et pour 2,99$ de plus, obtenez un sous-marin 7 pouces.
Vincent Sous-Marin, 644 boulevard Sainte-Foy à Longueuil. Et à Montréal, deux adresses, Saint-Hubert-Coin-Jean-Talon et Sainte-Catherine-Coin-Bourbonnière.
Vincent Sous-Marin, les meilleurs sous-marins au Québec.
Vous aimez prendre soin de vous? Mignonne vous offre du temps pour vous. Le centre d'épilation et de beauté par laser Mignonne du 3180 chemin de Chambly à Longueuil connaît vos désirs. Offrez-vous le droit d'être mignonne. Appelez-nous au 450-332-7337.
Ici Karine Cousineau, agente de communication à l'UDS. Ne manquez pas la capsule d'information Campus de l'Université de Sherbrooke les jeudis à 7h05 et 8h05, ainsi qu'à 16h05 et 17h05. C'est donc un rendez-vous pour tout connaître sur les découvertes de chercheurs, ainsi que les formations, les événements, les conférences et les séances d'information qui se tiennent au campus de Longueuil de l'UDS. En attendant, visitez notre site web au usherbrooke.ca/Longueuil.
L'Université de Sherbrooke, pour vous aider à atteindre votre but.
Vous écoutez